C'est seulement en voyant les enfants ce matin que je me suis dit, ah oui, c'est vrai, aujourd'hui, il y a les enfants qui sont avec nous. Mais c'est aussi bien. Vous savez, les enfants, qu'est-ce que vous aimeriez recevoir comme cadeau à Noël? Oui? Oui, c'est estimé? Beaucoup de choses? Des jouets? Et toi? Un cœur? Comment? Un cœur rouge? Ok. Et Justine? Comment? Ah, une montre, des habits. Ah oui, il y a beaucoup de... Et vous alors? Et vous, les adultes? Qu'est-ce que vous aimeriez recevoir comme cadeau? Comment? Ah, l'amour autour de nous. C'est une réponse très chrétienne. Très chrétienne. Alors, on a fait un sondage en 2015 sur les cadeaux qu'on aimerait recevoir. Et vous savez ce qui a été sorti en premier? Imaginez un petit peu. Les sous? Les sous, c'était deuxième place. Comment? Oh, non, c'était... Comment? Mariage, non. oui. Le bonheur. En fait, la première réponse était voyage. Beaucoup de personnes âgées ont répondu, à mon avis, pour cette réponse. Et puis, la deuxième place, l'argent. Ça, c'est en 2015. En 2024, il y a quelques semaines, on avait fait un sondage et il y a 22% des personnes préfèrent recevoir de l'argent, effectivement, de l'argent à Noël plutôt qu'un cadeau traditionnel. Alors, si vous n'avez pas encore préparé des cadeaux pour vos proches, voilà une source d'inspiration. Vous êtes maintenant au courant des préférences actuelles des personnes. Alors, parmi les cadeaux qu'on n'aimerait pas recevoir, ah, la maladie, oh, oui, mais... mais il y a des cadeaux qu'on offre, mais on n'aimerait pas recevoir ce genre de cadeaux. Parmi les réponses, il y a les fleurs. Oui, les fleurs. Il y a des gens... Pourquoi les fleurs? Parce que ça fane, et puis, enfin, voilà, je pense. Et puis des livres. Des livres. Enfin, il y a très peu de pourcentage des qui aimeraient recevoir des livres. Oui, elle travaille avec des livres, donc. Mais c'est vrai que il y a quelques années, on aimait recevoir des livres, mais là, aujourd'hui, de moins en moins, on voit bien que il y a un changement de coutume, d'habitude. Et si vous avez déjà acheté des livres, tant pis pour vous, hein. Non, il se peut que la personne aussi soit très lecteur et qu'ils peuvent aimer ce cadeau. Pour information, j'ai acheté un livre aussi pour mon beau-père. Donc je pense qu'il va aimer aussi. C'est un très grand lecteur. Alors, je ne sais pas, j'espère que vous avez fini de préparer vos cadeaux pour Noël. Non? Vous savez, ma femme, elle prépare depuis le mois de novembre. Et donc, elle planifie les choses, il faut acheter un cadeau pour tel ou tel. Donc, voilà, on repart chez les parents avec beaucoup de cadeaux. À l'époque de Jésus, vous aimeriez savoir un peu la culture de cadeaux chez les Romains? Chez les Romains, oui. Dans cette culture romaine, offrir un cadeau veut dire aussi qu'ils attendaient sûrement un cadeau en retour. Hein? Et c'est pour ça que recevoir un cadeau de grande valeur pouvait être oppressant. en se disant, ah ben, je dois aussi lui offrir la même chose. Si il m'offre de l'or, enfin, je ne sais pas, mais en tout cas de l'or, ça veut dire qu'avec la même valeur, il faut aussi lui donner, redonner quelque chose de même valeur. Donc ça obligeait à rendre un présent. Et c'est pour ça, en fait, qu'il n'y avait pas vraiment d'échange de cadeaux entre les différentes classes. Donc les nobles offraient aux autres nobles, pas forcément aux esclaves. Et puis, bon, ce qui comptait chez les Romains, c'est, voilà, surtout l'échange, en fait, représentait symboliquement un renforcement de liens sociaux et familiaux. Comme aujourd'hui aussi, hein, en donnant des cadeaux, ça renforce nos liens entre parents, enfants, etc. Alors, qu'est-ce que dit la Bible pour les cadeaux ? La Bible aussi parle des cadeaux. Et dans Éphésiens 2, on voit la Bible qui nous parle d'un cadeau extraordinaire. J'aimerais vous lire. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. J'avais lu ce verset il y a quelques semaines. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. C'est le cadeau de Dieu. Le plus grand cadeau que le Seigneur nous offre, c'est le salut éternel. Et le salut, ben, c'est un don divin, c'est un cadeau divin. Et si on réfléchit davantage, nous comprenons que ben, Dieu nous a aussi envoyé Jésus justement pour nous sauver. Et de ce fait, Jésus devient notre plus grand cadeau. Est-ce que vous avez compris, les enfants ? Oui, ah, c'est super. Oui, Jésus est le plus grand cadeau que nous puissions recevoir. Est-ce qu'on pourrait répéter les uns des autres en disant « Jésus est ton meilleur cadeau ». Allez, tu peux dire « Jésus est ton meilleur cadeau ». Jésus est ton meilleur cadeau. Ouais. Voilà, Jésus est notre meilleur cadeau. Mais si on réfléchit encore avec ce cadeau, le cadeau peut être appelé par un autre mot, un présent. Je vous avais déjà parlé d'un présent. Alors, qu'est-ce que ça veut dire un présent ? Ce mot veut dire, bien sûr, cadeau, mais aussi le présent, maintenant. Et je me suis dit que, oui, si nous réfléchissons à cette notion de présent maintenant, nous comprenons que chaque moment présent est précieux et que c'est un don de Dieu aussi. Du point de vue symbolique, la vie elle-même, chaque jour, est un présent et que nous recevons de la part de Dieu. Et tout comme un cadeau, ce moment présent, ce moment où nous faisons le culte à Dieu, est aussi une bénédiction et puis un bien précieux à apprécier. Que vous puissiez vraiment aussi profiter chaque présent que le Seigneur nous offre. Le verset d'aujourd'hui que j'aimerais partager avec vous, c'est un verset très très célèbre. Il s'agit de Ésaïe 9, chapitre 6. Voilà, c'est une prophétie que le prophète Ésaïe nous avait prescrit, ou plutôt prophétisé. Voilà, que j'aimerais vous lire. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Voilà, je vais m'arrêter au verset 6. Tout d'abord, il est dit, car un enfant nous est né. Voilà, nous célébrons Noël encore ce dimanche. On va encore faire un autre culte le 25 décembre à l'église de Stan, un culte en commun pour célébrer encore la naissance de Jésus. Mais voilà, aujourd'hui, c'est le culte aussi que nous célébrons la naissance de Jésus. Et vous rendez compte, 700 ans avant la naissance de Jésus, le prophète Ésaïe avait prédit qu'un enfant allait être né. Un enfant est né, ce fils nous est donné. Dieu, dans son amour infini, a donné son Fils unique, Jésus-Christ, pour nous. Et c'est un cadeau aussi, loin d'être ordinaire, mais c'est vraiment, je dirais, sa venue sur cette terre est une expression parfaite de son amour. Et il s'agit du plus grand cadeau que l'humanité puisse recevoir. Et puis, il est dit ensuite, la domination sur ses épaules. Oui, ce verset nous dit que Jésus porte sur ses épaules la domination, c'est-à-dire le gouvernement. Cela signifie qu'il est souverain et que tout pouvoir lui a été donné et qu'il est l'autorité suprême de toute chose, de toute la création. Ensuite, on voit pas mal de choses, pas mal de descriptions à propos de ce bébé qui allait naître. Il y a un théologien qui a dit que pour bien connaître Dieu, il est important aussi de connaître ses attributs et aussi les noms de Dieu. Alors, est-ce que vous pourriez me dire les attributs de Dieu, ou plutôt, si je dis autrement pour les enfants, les caractères de Dieu? Je vous donne un exemple, l'amour, voilà, la paix, la voix, la joie, oui, j'ai un problème d'ouïe, la joie, exactement, oui, la joie, la patience, oui, Dieu est patient, comment, la foi, oui, la foi aussi, Dieu nous donne. La fidélité, il y a beaucoup de choses. Alors, est-ce que vous connaissez aussi, bon, on pourrait vraiment étaler beaucoup de choses, comme Dieu omniscient, Dieu omnipotent, il est toujours fidèle, la souveraineté de Dieu, la miséricorde de Dieu, la justice de Dieu, la vérité de Dieu, il y a plein de choses qu'on pourrait dire. Comment ? Glorieux, voilà, il est glorieux, il est digne de recevoir notre louange. Et les noms de Dieu, est-ce que vous connaissez un peu ? On a beaucoup parlé hier de son nom, Emmanuel, Dieu est avec nous, n'est-ce pas? Dieu est avec nous, qui est déjà aussi prédit 700 ans avant par Esaïe. Il y a encore d'autres noms, comme Yahweh, je suis celui qui suis. Hein? Donc, à travers le nom, on peut comprendre vraiment qui il est. Elohim, par exemple? Alors, Elohim, qu'est-ce que ça veut dire, Elohim? Oui, elle veut dire Dieu, Elohim veut dire elle au pluriel, les dieux. Mais pourquoi alors il y a des dieux? Non, en fait, il y a un seul Dieu. Mais en hébreu, quand on parle au pluriel, ça veut dire que ça accentue la grandeur de la personne. C'est pour ça que quand on dit les dieux, enfin, Elohim veut dire elle, mais de puissance X, pour dire qu'il est tellement fort. Et puis, tout à l'heure, quelqu'un a dit Jéhovah Jireh. Voilà, hein, Dieu qui pourvoit. Jéhovah Rapha, Dieu qui guérit, l'Éternel qui guérit. Jéhovah Nissi, la bannière, hein, victorieux. Hein. Il y a plein de noms. Et là, justement, dans Ésaïe 6, chapitre 9, verset 6, on voit justement aussi les noms de ce bébé qui allait venir. Donc, pour nous, il est déjà venu, Jésus. Mais pour Ésaïe, 700 ans avant la naissance de Jésus, voilà, il décrit qui était ce bébé qui allait venir. Et il dit ceci, « On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel et prince de la paix. » Waouh, c'est une description assez claire que ce Jésus n'est pas un homme ordinaire, il est même Dieu, incroyable. Et voilà, Ésaïe nous révèle 5 noms qui décrivent la nature et même la mission de ce bébé. Ces noms reflètent vraiment à la fois son identité divine, mais aussi ses caractéristiques. Alors d'abord, admirable. Le mot admirable évoque quelque chose ou quelqu'un de merveilleux, de sublime, qui inspire l'admiration ou l'émerveillement. En hébreu, j'avais oublié ce nom-là, enfin ce mot-là en hébreu. En hébreu, j'ai cherché et le mot utilisé est pelé. Alors pour apprendre par cœur, je me rappelle maintenant. Pour apprendre le mot admirable, je pensais le joueur de foot Pelé. Pelé, admirable. Pelé, il joue super bien au foot. Et c'est pour ça que ça s'est rentré dans la tête et maintenant c'est rentré dans votre tête aussi. Voilà. Admirable. Ce bébé est merveilleux. Il est prodigieux, comme Pelé. Mais plus que ça, bien plus que ça. Et ce mot est vraiment, en tout cas, souvent utilisé dans la Bible pour désigner des actes extraordinaires accomplis par Dieu. Et puis, deuxième nom, conseiller. Conseiller. Ce qui veut dire que Jésus possède... Alors, normalement, celui qui donne des conseils est quelqu'un qui est assez sage, intelligent. Et on peut penser que en le nommant conseiller, vous voyez, Jésus devait posséder une sagesse parfaite. Contrairement aux mauvais conseillers, il y a quand même aussi des mauvais conseillers qui existent, qui peuvent nous faire égarer, mais Jésus donne des conseils empreints de vérité et de justice. Et il est vraiment notre guide suprême qui dirige nos vies et aussi nous montre le chemin à suivre. Souvent aussi, on colle les deux mots « admirable conseiller », qui peut dire aussi donc, qui peut être compris comme une combinaison en disant que Jésus est un guide merveilleux, sage et digne de confiance. Ça va jusqu'à maintenant? Vous avez bien compris? Troisième, c'est quoi après admirable conseiller? C'est Dieu puissant. Dieu puissant. C'est un peu bizarre à l'époque parce que dire que le Messie, le Sauveur qui allait naître est Dieu puissant. Or, on a une foi monothéiste, c'est-à-dire un seul Dieu. Et là, ça devait être un petit peu difficile à comprendre, mais nous avons compris justement avec la venue de Jésus. Oui, Jésus est le Fils de Dieu, mais aussi il est Dieu lui-même. Et ce titre souligne vraiment qu'il partage la même gloire avec le Père. Il partage la même pensée avec le Père. Il partage aussi les mêmes projets que Dieu le Père. Dans l'Ancien Testament, on voit de temps en temps des anges, parfois adorés ou confondus avec la présence divine, mais ici, Jésus est explicitement présenté comme Dieu lui-même. Il n'est pas simplement un messager ou un prophète, mais il est le Dieu tout-puissant, le Dieu incarné. Et cette puissance se manifeste non seulement dans la création du monde, mais aussi dans son caractère. J'aimerais vous rappeler un peu cet épisode où, justement, dans Marc 4, il me semble, que voilà, Jésus, avec ses disciples, monte sur une barque et puis, tout à coup, il rencontre une tempête. Et les disciples demandent, alors que Jésus était en train de dormir profondément, il dit « Sauve-nous, Seigneur, nous périssons, maître, ne t'inquiète pas que ce que nous périssons. » Et puis, Jésus se lève, réprimande les vents et la mer en disant « Silence, tais-toi. » Alors, aussitôt, le calme revient. On voit ici la puissance de Dieu manifesté même chez Jésus parce qu'il est lui-même aussi Dieu. Il maîtrise la création, sa création, ce qui est normal. Ensuite, son nom est Père éternel. Est-ce que ça parle de quoi? En fait, il est bien sûr le Fils de Dieu. Bien qu'il soit le Fils de Dieu, Jésus agit envers nous, envers son peuple, avec amour, comme un père qui prend soin de ses enfants. Et cet amour, je dirais paternel, est éternel et il ne faillit pas. Il ne faiblit pas cet amour et il ne prend jamais, enfin, cet amour prend jamais fin. Et c'est pour ça que Jésus est là pour nous guider, pour nous protéger, pour nous consoler comme un père à jamais, éternellement. Et donc, son nom, on pourrait dire Père éternel pour nous. Prince de paix, le titre de prince de paix montre que Jésus est la source ultime de paix. Une paix qui va au-delà de la simple absence de conflit. Parce qu'il est conseiller admirable que voilà, Jésus nous guide véritablement. On peut faire confiance, c'est pour ça que nous pouvons avoir la paix. Je vous donne un petit exemple. Il y a quelques mois de cela, je revenais de Paris avec Guillaume qui est là-bas et aussi avec le roi de... Ah ben, le roi, le pasteur, il n'est pas le roi, non. Il est le pasteur de l'église de Villers. Voilà, nous étions dans ma voiture ensemble dans la nuit. Je conduisais, voilà, il était, je ne sais plus vers quelle heure... Mais dans la nuit, on voyait vraiment rien du tout. Vous savez, dans les Vosges, vraiment, il n'y avait pas de lumière. Du coup, c'était le noir total. En plus, il pleuvait des cordes. C'était très dangereux. Je conduisais prudemment. Et puis, il n'y avait pas de voiture devant, derrière. Et donc, je conduisais, voilà, prudemment. Et je regarde une seconde mon GPS. Là, est-ce que je ne me trompe pas? Et puis voilà, pour regarder un petit peu l'heure d'arrivée, je me retourne et ah, je vois quelque chose, un animal devant nous. Et là, j'aurais pu me paniquer complètement, tourner le volant pour l'esquiver et avoir un accident grave. Et nous trois, nous ne serions peut-être pas ici. Mais le Seigneur m'a donné la paix, et puis dans ma pensée, enfin je pense que le Seigneur nous a donné cette sagesse, allez, fonce-le. Et puis, je l'ai foncé, il a eu une mort assez rapide. Je pense en tout cas. Mais on a été protégés en tout cas, protégés. Je pense que c'est quand même Dieu qui m'a donné cette pensée. Puis une fois aussi, quand j'étais à Paris, sur une route neigeuse, je retournais et puis je faisais aussi 360 degrés de tour. Mais même là, à ce moment-là, j'étais en paix parce que le Seigneur est avec nous malgré les aboires que nous pouvons rencontrer. Oui, le Seigneur est là. Elle nous accorde cette paix immense. Et donc, Jean 14, vous savez ce que le Seigneur a dit? Je vous laisse la paix. Je ne vous donne pas ma paix. Enfin, je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne, que votre cœur ne se trouble point, ne s'alarme point. On n'a pas à s'inquiéter pour rien. Parce que la paix du Seigneur est dans votre cœur, dans mon cœur. Et puis, dans des périodes d'instabilité, comme celles que nous vivons aujourd'hui, beaucoup ressentent de la peur et de l'insécurité. J'étais triste de savoir cette semaine qu'en Allemagne, une attaque en voiture a tué beaucoup de gens et aussi blessé beaucoup de personnes, en plus au marché de Noël en Allemagne. C'est triste. Et je pense que je compatis, je prie pour les familles qui doivent être dans l'insécurité, déstabilisées complètement. Mais il y a des choses qui se passent dans le monde et ce genre d'événement ne nous aide pas à avoir une tranquillité, la paix. Et il n'y a pas que ça. Peut-être on a connu un échec dans différents domaines. Et ce genre de choses aussi peuvent nous apporter de la peur, de l'insécurité, etc. Mais sachez vraiment que lorsque le Seigneur est avec nous, on peut être dans la tranquillité. Il y a eu un petit examen, enfin un petit sondage auprès des adolescents. Il y a des adolescents dans notre église. Et selon les statistiques, les adolescents ressentent souvent aussi plus d'instabilité que les adultes. Ça, vous saviez ou pas? Les enfants ressentent plus d'instabilité, de peur. Et environ à peu près 32% des adolescents déclarent se sentir instables. Contre 19% des adultes. Et puis, parmi ces 32%, entre les filles et les garçons, à votre avis, c'est quel... Oui, les filles, oui, effectivement, les filles. 38% déclarent se sentir instables pour les filles, et puis 26% pour les garçons. Donc, oui, il y a une peur qui est présente chez les enfants. J'espère qu'en tout cas que c'est un sujet de prière pour nos enfants qui grandissent, qu'ils puissent vraiment aussi être équipés de cette paix que le Seigneur nous donne, que leur confiance grandisse envers le Seigneur. Je sais que ma fille, quand elle va faire ses examens, voilà, nous on prie pour elle, pour qu'elle soit en paix. Et que, voilà, qu'elle est aussi... enfin, bref... Mais parfois, vous savez, quand nous voyons chez les enfants cette peur, ça peut être contaminant même pour les parents, et de vice-versa. Et donc, c'est un cercle vicieux d'inquiétude dans la famille même. Alors, comment résoudre ce genre de problème? La solution réside aussi dans un retour vers Dieu. Jésus nous offre un accès direct à sa paix. Dans Éphésiens 3, 12, il est dit que nous avons... par la foi en lui, la liberté de nous approcher de Dieu avec confiance. Nous avons cette liberté, cette opportunité de nous approcher de Dieu. Et ce chemin pour aller auprès de Dieu est ouvert à tout moment. Voilà, allons vers notre Seigneur avec courage et confiance quand tout va mal, ou même quand tout va bien aussi. Et soyons vraiment proches de Dieu et reposez-vous en lui, reposez-vous en lui. Et cette paix nous transforme aussi. Lorsque nous vivons, par exemple, dans la paix que Jésus nous donne, nous pouvons aussi transmettre cette paix aux autres. Quand vous êtes en paix, les gens qui sont autour de vous ressentent cette paix. Et voilà, c'est comme une grâce qui déborde. Cette paix aussi peut être débordante et toucher, influencer les gens qui sont autour de vous. Amen. Amen. Vous savez, quand j'étais jeune, j'étais pas un très bon garçon. Je sortais souvent, oui. Et le soir. Dans la journée, je sors faire la fête avec mes copains, souvent. Et puis, je rentre à la maison, mais pas à 10h, pas à 11h, pas à minuit. Je rentrais souvent à 3h, vers 5h, ou même parfois 6h du matin, quand ma maman se réveillait. Ma maman, au début, elle s'inquiétait beaucoup. Imaginez, Johnny, Gaël, voir ses enfants sortir et rentrer à 3h du matin. Voilà, on doit s'inquiéter, quoi. Et ma maman, au début, était très inquiète. Mais depuis qu'elle avait vraiment fait confiance au Seigneur, elle était toujours cool. « Ah, t'es là ?» « Ah, il est que 6h du matin. Oh. » en voyant vraiment sa foi, je me suis dit, à un moment où j'ai vraiment grandi un peu dans la foi, j'ai dû me dire, Seigneur, oui, donne-moi aussi cette paix, que ma maman reflète cette paix, c'est celle que le prince de paix peut nous donner. Alors, j'aimerais encore vous poser quelques questions. Si en ce moment, vous traversez des moments de doute et d'incertitude, est-ce que vous allez confier cela à Jésus, à ce Dieu puissant, conseiller, admirable et prince de paix. Ne laissez pas, en tout cas, les circonstances de la vie voler votre paix. Approchez-vous de Dieu avec foi, car il est prêt à vous accueillir et vous conduire. Transmettez cette paix à vos proches aussi durant cette fête de Noël. Une fois que vous vivez cette paix de Dieu maintenant avec le Seigneur, nous devenons un canal de bénédiction de cette paix pour les autres. Jésus est celui qui peut transformer l'instabilité en assurance, la peur en paix et le doute en confiance. Cette semaine, j'ai dû méditer un verset qui m'a fait beaucoup travailler, qui m'a fait beaucoup réfléchir. Il s'agit dans 1 Jean 4, 18. Parce qu'en fait, en méditant, cette réflexion est venue en premier. Pour vous, j'ai une question à vous poser. Pour vous, le contraire de la peur, le contraire de l'anxiété, c'est quoi? L'amour. Alors moi, il y a quelqu'un qui a dit l'amour, mais moi j'aurais répondu la stabilité, l'inverse. L'inverse de l'anxiété, de la peur, c'est la stabilité et la paix. Mais en fait, Claude a raison, c'est l'amour. J'aimerais vous lire ce verset qui est tellement étonnant. La crainte n'est pas dans l'amour. La crainte n'est pas dans l'amour. Mais l'amour parfait bannit la peur, bannit la crainte. Donc, en fait, on pourrait dire que le contraire de la peur, c'est l'amour. Si vous avez l'amour, vous bannissez la peur, la crainte. Car la crainte suppose un châtiment, et celui qui craint n'est pas parfait dans l'amour. La crainte n'est pas dans l'amour. C'est-à-dire, l'amour véritable, surtout celui qui vient de Dieu, est incompatible avec la peur. La peur peut être liée au jugement, à l'insécurité, etc., etc. Mais lorsque nous comprenons l'amour inconditionnel de Dieu, pour nous en tout cas, il n'y a plus de place pour les craintes. Il n'y a plus de place pour les craintes. Et puis il dit que l'amour parfait bannit la crainte. L'amour parfait ici fait référence à l'amour de Dieu, à l'amour complet, infaillible, à l'amour constant. Donc quand nous vivons dans cet amour, nous avons l'assurance de notre relation avec Dieu, et donc la peur du châtiment, du rejet ou de l'inconnu disparaît complètement. Et puis il est dit aussi que la crainte suppose un châtiment. Alors cette phrase aussi rappelle que la peur est souvent liée à l'idée de punition ou de jugement. Mais dans une relation avec Dieu basée sur l'amour, nous n'avons pas à craindre de châtiment, car Jésus a déjà pris sur lui tout notre jugement. Alléluia. Et il n'y a donc plus maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Et puis il est dit à la fin, celui qui craint n'est pas parfait dans l'amour. Oui, avoir encore peur peut indiquer que nous n'avons pas encore pleinement saisi de l'expérience de l'amour parfait de Dieu. Cela signifie que nous devrions en tout cas ressentir cet amour, expérimenter davantage. Et si vous ressentez encore cette peur, nous avons encore un chemin de croissance spirituelle à faire pour mieux comprendre, pour mieux vivre pleinement cet amour de Dieu. Oui, Jésus est celui qui peut transformer l'instabilité en assurance, la peur en paix, le doute en confiance. Le monde peut offrir des solutions temporaires, mais seule la paix de Dieu, incarnée en Jésus-Christ, est durable et véritable. Que le Seigneur vraiment nous bénisse et nous rappeler aussi les noms de Jésus-Christ, qui nous renforce notre foi, à aller de l'avant aussi, à faire disparaître toutes ces inquiétudes, mais à être dans la paix de Dieu. Et que nous puissions encore chérir cette relation avec le Seigneur pour vivre pleinement cette période de Noël, ce cadeau, et fêter la venue de Jésus pleinement dans la joie, tout seul bien sûr, mais aussi en famille. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. J'aimerais vous inviter à la prière. Seigneur, aide-nous vraiment à vivre dans la confiance et dans l'assurance. Merci encore aussi pour ce plus grand cadeau que tu nous as offert, Jésus-Christ, pour le pardon de nos péchés, pour le salut de tous. Seigneur, oui, maintenant nous voulons encore vivre dans le présent, cette présence de Dieu au quotidien. Merci aussi vraiment pour tous ces enseignements à travers Ésaïe 9, qui a été vraiment une prophétie de la venue de Jésus, mais aussi de la description de qui est ce Jésus, ce Sauveur, ce Messie qui est déjà venu il y a plus de 2000 ans pour nous sauver. Oui, son œuvre parfaite a été réalisée pour le pardon de nos péchés, pour l'humanité entière, pour les péchés du passé, présent et du futur. Seigneur, vraiment, que nous puissions, avec cette vérité, chasser les craintes et aussi privilégier la relation intime avec toi et que l'amour pour toi grandisse de jour en jour pour vraiment vivre pleinement, Seigneur, ta présence et ta paix et ton amour. Au nom de Jésus. Amen.